Paul, que j'affectionne, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8. On a chanté tout à l'heure dans ce premier chant qui disait « Yahweh, non, rien ne pourra me séparer de ton amour. » Voilà. Ben c'est un petit peu ce que dit l'apôtre Paul dans ce chapitre 8 des Romains. On a chanté dans le dernier chant « En toute assurance, je m'appuie sur lui. » Et c'est de ça dont j'aimerais parler ce matin, d'assurance. Alléluia. Regardez avec moi Romains chapitre 8. Si vous passez par un moment difficile, lisez Romains 8. Et vous allez voir, il y a des choses extraordinaires. Hein. Ce chapitre commence par cette parole. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Aucune. Et puis il se termine de cette façon, à partir du verset 35. Romains 8, verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, et on pourrait rajouter tout un tas de choses derrière. Tu peux rajouter peut-être tout un tas de choses. Est-ce que ça sera la maladie? Est-ce que ça sera ceci? Est-ce que ça sera cela? Tu peux en rajouter des choses. Hein. Et Paul dit, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, toutes, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance, alléluia, et c'est ça que je voudrais qu'on retienne ce matin. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alléluia. Ce matin, je voudrais m'arrêter avec vous sur quelque chose que l'ennemi de notre âme va tout faire pour nous voler. Vous savez que Jésus a appelé notre adversaire le voleur. Jean chapitre 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et mon frère, ma soeur, s'il y a quelque chose que le diable va tout faire pour nous voler, va tout faire pour peut-être nous le subtiliser d'une façon ou d'une autre, c'est notre assurance en Christ. Et ce matin, j'aimerais parler de notre assurance en Christ, nos certitudes en Christ. L'enfant de Dieu, celui qui est véritablement né de nouveau, et je crois que c'est le cas ce matin de la plupart d'entre nous, il peut dire avec assurance, nous pouvons dire avec assurance ce matin, je sais que je suis sauvé. Je sais que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Je sais que je suis pardonné. Je sais que Dieu est avec moi, même si c'est compliqué, même si c'est difficile. Je sais que dans mon épreuve, Dieu est avec moi. Je sais que je suis enfant de Dieu. On peut dire ce matin, je sais. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de l'auto-persuasion. On n'est pas là en train de se rassurer comme on peut. On n'est pas là en train de sauver les meubles en se disant, bon, ben, c'est pas la joie, alors on va essayer de se rassurer un petit peu. Non, c'est des certitudes qui sont là. Je ne peux pas vous l'expliquer, vous ne pouvez pas me l'expliquer, mais elles sont là. Et c'est ça l'enfant de Dieu. Il peut dire, mais oui, c'est difficile. Oui, je ne comprends pas par où je passe. Oui, je ne comprends pas pourquoi je vis ça. Mais j'ai cette assurance, comme l'apôtre Paul. Que le Seigneur est avec moi, que je ne suis pas tout seul. Et ça, c'est quelque chose qui ressort d'une manière tellement abondante chez cet homme de Dieu, Paul. Vous voyez, quand vous lisez un petit peu le Nouveau Testament, d'ailleurs, il est l'auteur de pas mal de choses dans le Nouveau Testament, mais vous vous rendez compte que cet homme, il a traversé les épreuves, il a traversé les difficultés, il est passé par des moments où il a pensé même mourir, il pensait qu'il n'allait pas s'en sortir. Et ce qui ressort chez lui et qui a fait qu'il a pu aller jusqu'au bout malgré cela, qui a fait qu'il a pu dire, mais j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Ce qui ressort chez lui de manière abondante, c'est l'assurance qu'il avait en Christ. Pouvoir dire, mais hein, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais moi je sais. Je sais. Et ici dans ce texte, c'est fort ce qu'il dit. Hein, qui nous séparera de l'amour de Christ? Et mais il va citer tout un tas de choses qu'il a vécues. Parce que quand il parle de la tribulation, de l'angoisse, de la persécution, de la faim, tout ça, mais c'est des choses qu'il a vécues. Il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. On pourrait dire, mais il est fou. Mais il n'est pas fou. Et la suite l'explique, car j'ai l'assurance. Et ça ne s'achète pas à Carrefour. Ça, vous ne le trouverez pas à Casino. Vous ne le trouverez pas à Intermarché. Ça, c'est quelque chose que Dieu met dans nos cœurs quand on marche avec lui de tout notre cœur. J'ai l'assurance. Et vous le retrouvez chez Paul. À Timothée, il va dire, je sais en qui j'ai cru. Pensez pas que c'est bon ce matin de pouvoir dire, mais je sais en qui j'ai cru, je comprends pas pourquoi je passe par là, je comprends pas tout ce que je vis, je comprends pas toutes les situations, mais je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Je pense à cette autre parole d'ailleurs qui est dans Romains 8, en plein milieu. Hein. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous savons, vous voyez, c'est rempli de certitudes. C'est pas, ben, je sais pas trop, on verra bien, on verra ce qui se passera, on verra ce qui arrivera, hein, qui vivra verra. Non, non, mais c'est pas ça le croyant. Le croyant, il dit, mais je sais que toute chose, même ce que je comprends pas, même ce que j'arrive pas à expliquer, même si je vois pas le bout, je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Alors Seigneur, moi, on peut faire ce que tu veux, on peut faire ce qu'on veut, on peut dire ce qu'on veut. Moi, je sais. Alléluia. Et c'est ça la force du croyant. Et c'est pour ça que le diable va essayer de s'attaquer à ça, à nos certitudes en Christ, à cette assurance en Christ qui ne s'explique pas, mais qui se vit. Qui se vit. Combien de fois j'ai entendu ce genre de témoignage, ou même des gens dire, mais comment il fait? Comment tu fais? Avec ce que tu traverses, avec ce que tu vis, ben, tu es paisible, tu es dans la paix. Et vous, vous êtes là, vous ne pouvez même pas l'expliquer. Vous êtes là, vous dites, ben, je ne sais pas. Et l'autre à côté, il ne vit pas la moitié, et il est dans la panique, il ne dort pas, tout ça. Et toi, tu dors bien, impeccable. Mais comment tu fais? J'ai l'assurance. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, rien ne pourra me séparer de l'amour de Christ. Alléluia. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et justement, je voudrais m'arrêter avec vous rapidement sur le cas de deux hommes dans la Bible, un dans l'Ancien, un dans le Nouveau, qui à un moment donné, et peut-être c'est quelqu'un ce matin, ont perdu cette assurance. Et quand on perd ça, ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts. On peut avoir eu des expériences avec Dieu, on peut avoir une certaine, comment dire, expérience de la marche avec Dieu, mais quand on perd cette assurance, on perd tout. Et les deux que j'ai choisis ce matin, vous allez voir, ce n'est pas des novices dans la foi. Le premier, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, quand vous regardez, c'est quand même celui dont Jésus a dit, il n'en a pas paru de plus grand. Hein. Il n'a pas fait de miracle pourtant. Vous voyez comme quoi, avec Dieu, ce n'est pas une affaire de miracle. Mais Jean-Baptiste, il a vécu des choses extraordinaires avec le Seigneur et il a reçu une révélation extraordinaire de Jésus. Par exemple, regardez, rappelez-vous, Jean-Baptiste, c'est quand même celui, regardez, dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, c'est lui qui va dire, en parlant de Jésus, « Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Donc, il prend conscience de qui est Jésus. Et regardez, ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Et regardez, le lendemain, Jean, donc, il vit Jésus venant à lui et il dit, à ce moment-là, Jésus n'est pas encore le, entre guillemets, le grand Jésus qui a fait tout un tas de miracles, qui est reconnu de partout où il passait. Mais Jésus démarre son ministère et il va dire de lui, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Quelle révélation! Un petit peu plus loin, verset 32, Jean rendit ce témoignage, et là c'est encore plus fort. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. » Là c'est plus fort encore, « J'ai vu ». Quand il a baptisé Jésus, vous vous rappelez qu'au début, il ne voulait pas, je le comprends. Et puis, il ne va plus résister, nous dit l'évangile de Matthieu. Et là, vous vous rappelez ce qui s'est passé. Le Saint-Esprit est venu sur lui sous la forme d'une colombe. Et il dit, mais j'ai vu ça. J'ai vu ça. Vous voyez ? Et un petit peu plus loin encore, regardez, verset 35, le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voici l'agneau de Dieu. Waouh ! On peut se dire, mais quelle révélation il a eu cet homme. Et pourtant, quelle n'est pas notre surprise à un moment donné, et on va l'afficher dans Matthieu chapitre 11, versets 2 et 3, il est dit ceci, « Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Surprenant quand même, hein. On pourrait se dire, mais Jean, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Tu te souviens pas que c'est toi qui as dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde? On pourrait dire, mais tu te souviens pas que tu as dit, mais j'ai vu l'Esprit descendre sur lui, s'arrêter sur lui. Il a vécu tout ça, il a réalisé toutes ces choses, ça l'a touché, vous voyez. Et là, il boit le bouillon. Il ne sait plus où il est. Est-ce que tu es celui qui doit venir ou est-ce qu'on doit l'attendre? Vous voyez, on sent qu'il perd pied, quoi. Il a perdu pied. Il ne sait plus trop où l'année. Il est en plein doute. Et quand je lis ça, j'ai envie de dire, mais enfin, Jean-Baptiste, réveille-toi. Mais vous auriez beau lui dire, réveille-toi. Lui, il va pas bien. Il va pas bien. Et la raison qu'il nous est donnée, c'est qu'il est en prison. Il vit une situation difficile. Vous voyez? Et je me dis ceci, ça serait tellement facile de lui tomber dessus. Hein. De lui dire, mais alors, qu'est-ce qui t'arrive? Hein, quand même, avec l'expérience que tu as, quand même, Jean-Baptiste, ressaisis-toi, quoi. Ça, c'est les encouragements qui vous tuent, quoi. Vous voyez, des fois, il y a des gens, ils veulent vous encourager, ça part de tout leur cœur, mais alors ils vous encouragent pas, ils vous assassinent, quoi. Vous voyez. Mais si quelqu'un fait ça, mais ressaisis-toi quand même. Et vous remarquerez que Jésus va pas lui dire, mais quoi, c'est lui qui dit ça. Dites-lui de ma part qu'il se ressaisisse. Hein. Jésus dit pas ça. Hein. Jésus dit pas ça. Vous voyez. Quand on perd de notre assurance, tout d'un coup, on peut vite perdre pied. Hein. On peut vite perdre pied. Alors, bon, je vais prendre une image toute bête, là, toute terre à terre, mais pour ceux qui aiment le sport, là, je ne sais pas s'il y en a quelques-uns qui suivent un peu le tennis. Alors, ça remonte un peu loin, mais c'est pas grave, parce que c'est un des premiers matchs de tennis que j'ai regardé à la télé. Genre, j'avais regardé ce jour-là, et ça m'avait interpellé. Et quand j'ai préparé ce message, ça m'est revenu. En 1984, hein, ouf, finale de Roland-Garros. Entre deux joueurs, un qui s'appelait John McEnroe, et l'autre, hein, Ivan Lendl. Voilà, ça vous dit quelque chose, ça. Enfin, pour les plus anciens, les jeunes, vous ne savez même pas qui c'est, vous n'étiez pas nés. Alors, bon. Voilà. Là, je m'adresse aux plus, je ne vais pas dire les plus vieux, je vais me faire assassiner à la sortie. Je me souviens de ce match-là parce que John McEnroe n'avait jamais gagné Roland-Garros, d'ailleurs il ne l'a jamais gagné. Hein, Ivan Lendl, c'était le poulie d'or. Il arrivait toujours en finale, il n'arrivait jamais à gagner. Et puis, pendant plus d'une heure et quart, John McEnroe écrabouille Ivan Lendl. Il lui met une tannée, une rouste, hein, voyez. Et on se doute que le match va être vite plié parce que les points défilent les uns derrière les autres. Vous voyez le Tchèque, il n'en peut plus, il ne sait plus où il est. Il passe d'un point à l'autre, il est dépité. Bon. Et puis, ce qui se passe, c'est que à un moment donné, au cours du troisième set, alors que les deux premiers sets, il les a gagnés tranquillement, c'est pas ce qui se passe trop dans l'esprit de John McEnroe. Il commence à perdre 2, 3, 4 points. Et tout d'un coup, alors que jusque-là, il est, vous voyez le gars, il est plein d'assurance. Il a... Tout d'un coup, on sent qu'il panique. Je ne sais pas ce qui se passe, il sent qu'il panique. Et l'autre en face, il reprend confiance. Et vous connaissez la suite. Hein, l'autre va se redresser complètement et il va gagner les 3-7 derrière. Mais tout ça pour vous dire quoi? Pas pour vous parler de tennis, c'est pas ça le plus important. Mais pour vous dire, vous voyez, quand on perd de son assurance, on perd pied. Et vous avez beau essayer de vous ressaisir, vous avez beau essayer, mais on perd pied, quoi. On est en train de couler, vous voyez. La vie chrétienne, c'est comme un match. C'est comme un match. Et il y a un enjeu extraordinaire, c'est notre salut, c'est l'éternité. Et si on veut gagner ce match et pouvoir dire comme l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, mais on ne pourra le faire qu'avec ces certitudes que Dieu pose en nous le jour où nous nous tournons vers lui. Et c'est pour ça que l'ennemi de notre âme va tout faire pour essayer de nous voler ces certitudes. Ou peut-être même, s'il n'arrive pas à nous les voler, nous les faire perdre. Vous voyez, Jean-Baptiste a perdu pied. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, mais il ne sait plus où il en est. Il ne sait plus où il en est. Puis j'ai pensé à un deuxième homme. Là, dans l'Ancien Testament, on le connaît bien, c'est Asaph. Dans le psaume 73. Lui aussi, il perd pied. Asaph, ce n'est pas n'importe qui. Asaph, c'est lui et sa famille, c'est une longue lignée de chantres, de ceux qui ont travaillé à la cour de David. Alors on ne sait pas, dans le psaume 73, on pense, j'ai regardé différents commentaires, c'est pas le père, c'est certainement que le psaume 73, c'est les enfants, certainement. On n'est pas catégorique, mais voyez, mais ce sont des hommes, cette famille, en tout cas cette lignée, des gens qui ont servi Dieu, qui ont entraîné le peuple de Dieu dans la louange. Et à un moment donné, ce Asaph-là, on voit qu'il perd pied. Il perd complètement, il ne sait plus où il en est. Et il ne sait plus où il en est, pourquoi? Parce qu'il vit une situation qu'il ne comprend pas. Alors peut-être ça parle à quelqu'un ce matin. Peut-être tu vis une situation que tu ne comprends pas, en tout cas ce n'est pas normal. Pourquoi je vis ça? Pourquoi je passe par là? Pourquoi je traverse ça? Pourquoi ça m'arrive à moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? On s'en pose des questions. Hein. Et ça, c'est Asaph. Lui, son pourquoi, son problème, c'est que lui, il essaie de marcher avec Dieu, de plaire à Dieu, et c'est compliqué. Et il voit ceux qu'il appelle les méchants, ceux qui font n'importe quoi, pour eux ça marche. Il va dire, mais finalement ça sert à rien. Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. Il ne comprend pas. Et parce qu'il est là, il commence à vaciller, il commence à perdre pied. Il va même dire, mes pas étaient sur le point de glisser. C'est-à-dire que ça ne va plus, quoi. Et puis à un moment donné, la Bible nous dit qu'il va réfléchir là-dessus et il va venir dans la présence de Dieu. jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Et ce qui m'a toujours interpellé dans ce psaume, et on va les lire ces versets, c'est que vous avez l'impression que c'est plus le même homme après. Il vient dans la présence de Dieu, là Dieu le visite, il s'est passé quelque chose, il ne rentre pas dans les détails. Moi j'aurais aimé savoir qu'est-ce qui s'est passé, tu as été visité, rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as entendu, je ne sais pas. Mais regardez ce qu'il écrit. « Lorsque mon cœur s'est grissé et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. » Il ne parle pas des autres là, il parle de lui. Hein. « J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. » Parce que ça, il ne le réalisait plus. Des fois, on ne le réalise plus que Dieu est avec nous. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Et regardez le verset 26, moi je bénis Dieu pour ça. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Alléluia. Il a retrouvé son assurance. Il a retrouvé ses certitudes. Pourtant, si vous étudiez le psaume, vous allez vous rendre compte que la situation n'a pas changé, elle. Mais ce qui a changé, c'est qu'il a retrouvé ses certitudes. Et peut-être ce matin, tu as besoin de retrouver des certitudes. Parce que peut-être on s'est un peu égaré, parce que peut-être on n'a pas été vigilant, ou peut-être parce que l'ennemi est venu. Hein, il est venu et puis à force de picorer, il a tout pris. Et on ne sait plus où on en est. Voyez ? Vous voyez pourquoi c'est important d'en parler ? Parce que quelque part, quand on perd notre assurance en Christ, quand on perd nos certitudes, qu'on ne peut plus dire, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus où je vais, je ne sais plus si Dieu est avec moi, je ne sais plus s'il est là, mais on est déboussolé. Et quand on est déboussolé, on fait n'importe quoi. On fait les mauvais choix, on va le voir. On n'entend plus Dieu nous parler. Dieu peut nous parler 10 fois, on n'entendra plus. Parce qu'on n'a plus cette assurance, on n'a plus cette certitude en Christ. Vous voyez, c'est pour ça que c'est important d'en parler. Alors que je disais tout à l'heure, le plus beau témoignage pour moi, c'est de voir des hommes et des femmes qui des fois sont dans des situations difficiles et ils ne bougent pas. Vous êtes là, vous les regardez, vous dites, c'est impressionnant. Oui, les miracles, moi ça m'impressionne. Un miracle reste un miracle, hein. Alléluia. Et moi je crois que Dieu est un Dieu de miracles, alléluia. Et on prie pour que Dieu fasse des miracles. Vous priez pour ça? Moi, je prie pour que Dieu fasse des miracles. Hein, parce que, voilà. Mais quand des fois, le miracle, des fois, il est un peu différent. C'est quand vous êtes dans la tempête et vous ne pouvez pas l'expliquer, vous êtes calme. Et les autres, ils sont autour, ils disent, mais comment il fait? Hein? Vous voyez, ça parle, ça. L'assurance en Christ. Les gens, ils ne savent plus où ils en sont aujourd'hui. C'est tellement compliqué, la vie est tellement difficile que quand quelqu'un a cette assurance en Christ, waouh, ça parle. Hein, ça parle, vous voyez. Quand je vois notre sœur, je la cite, elle n'est pas là de toute façon, notre sœur Martine, mais je me dis, gloire à Dieu. Je pense à l'apôtre Paul dans Acte 27, qui n'a pas vécu la tempête calmée comme les disciples, mais qui a vécu le calme dans la tempête. C'est pas tout à fait pareil, le mot il est inversé, vous voyez. Mais c'est aussi glorieux. Et ça parle. L'assurance en Christ, ça parle. Quand on a cette certitude, mais je sais. Et je voudrais qu'on aille un petit peu plus loin. Regardez, c'est très intéressant. Je voudrais mettre sous vos yeux pourquoi il faut qu'on veille là-dessus. Pourquoi il faut qu'on veille là-dessus. Qu'on soit vigilant sur nos certitudes en Christ, sur ce que Dieu a déposé en nous. Parce que des fois, on pourrait s'habituer, on chante des chants, je suis sauvé, j'ai l'assurance, etc., etc. Mais on se rend plus compte que c'est important. Et qu'il faut y veiller dessus. Alors, 3-4 raisons rapidement. La première, c'est que avoir des certitudes, notre assurance, avoir cette assurance en Christ, ça va nous permettre de bien réagir en temps de crise. De bien réagir. Et là, je pense à un gars qui, à un moment donné, va réagir de manière extraordinaire. C'est Job. Job. Seigneur, je veux être comme Élie. Je veux être comme Élisée. Je veux être comme mais Job, j'ai jamais entendu, Seigneur, je veux être comme Job. Je vous rassure, moi non plus, hein, j'ai pas envie de. Mais Job, nous on connaît la raison. On sait qu'il y avait un combat spirituel, mais lui il le savait pas. Nous on lit l'histoire, c'est facile, hein. On peut dire, oh quand même Job, hein, quand même, hein. Allez, ressaisis-toi un peu. Oh. Mais lui il savait pas. Et au chapitre 19 de son livre, regardez ce qu'il dit. Quand vous essayez un peu de réfléchir, Mais c'est des choses qu'on pourrait dire, nous, aujourd'hui. Bien sûr, on réadapte ça à nos situations, mais c'est des choses qu'on peut dire. Regardez ce qu'il dit. On sait ce qu'il a vécu, on sait qu'il est passé par une maladie, quoi, une espèce de, je sais pas moi, de cancer, de truc qui dégénérescent. Il restait... Regardez ce qu'il dit. « Je suis abandonné de mes proches. Je suis oublié de mes intimes. » Vous imaginez ? Parce que ça, c'est ce qu'il ressent. Regardez. Je suis un étranger pour mes serviteurs et mes servantes. Je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. Quand il passe à côté de lui, c'est dur hein, ce qu'il dit. Regardez, continue. J'appelle mon serviteur et il ne répond pas. Je le supplie de ma bouche et c'est en vain. Mon humeur est à charge à ma femme. Ça ne va pas être joli, ça ne va pas être chouette à la maison. Madame Job, elle a dû... Vous savez, on peut critiquer Madame Job, maudit Dieu aimeur, mais enfin la pauvre... Elle est à côté. Vous savez, celui qui est à côté, c'est difficile. Hein, c'est lourd, hein, celui qu'il faut qu'il porte à côté. Et il dit, mon humeur est à charge à ma femme et ma plainte au fils de mes entrailles. Je suis méprisé, même par des enfants. Si je me lève, je reçois leurs insultes. Ceux que j'avais pour confidents m'ont en horreur. Ceux que j'aimais se sont tournés contre moi. Et regardez, mes os sont attachés à ma peau et à ma chair. Il ne me reste que la peau des dents. Essayez de vous imaginer un peu la situation physique dans laquelle il était. Donc là, il parle de sa santé physique, mais il parle de ses émotions, de ce qu'il ressent. Mes serviteurs, ils ne me répondent plus. Ceux qui étaient mes confidents, ils ne me regardent plus. Je compte... Enfin, c'est un drame, ce qu'il vit. Et quand vous lisez ça, vous dites, mais comment vous voulez vous en sortir? Comment vous voulez vous en sortir? Mais c'est dans le même chapitre, c'est juste un petit peu plus loin qu'il va dire ceci. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Assurance, assurance dans le Seigneur. Et vous noterez qu'il ne dit pas « je sens ». Parce que vous savez, je sens, c'est « je sens pas hein. ». Oui, il y a des jours où on dit « oui, il y a des moments où on sent, et puis il y a des fois où on ne sent pas ». Mais est-ce que pour autant Dieu n'est pas là? Non, il dit « je sais », c'est pas pareil. C'est pas pareil. Voyez. Je crois que ça, là, on touche à quelque chose d'important. Le je sais ou je sens, voyez, ça peut faire une différence énorme. Et aujourd'hui, j'ai senti la présence de Dieu. La fois d'après, tu ne vas pas la sentir, mais Dieu était là quand même. Hein. Voyez. Mais je sais. Et combien c'est bon dans les moments difficiles de pouvoir avoir cette réaction de foi, dire je ne comprends pas tout, parce que Job ne comprenait pas tout. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Mais ça vous donne une énergie extraordinaire. Et c'est ça qui lui a permis de tenir, même s'il va avoir des hauts, des bas. Et peut-être tu as des hauts, des bas, mais on est normal. Mais il y a cette assurance qu'il a. Je sais que mon Rédempteur est vivant. J'aimerais te dire, j'aimerais nous dire ce matin, que si dans nos situations, les uns et les autres, nous pouvons dire mais je sais que mon Rédempteur est vivant, on est les plus heureux des hommes. Je sais que Dieu est là. Je ne peux pas l'expliquer. Je peux pas. Ne me demandez pas comment. Ne me demandez pas de le décrire ou de l'écrire. Je ne sais pas. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, qu'il veille sur moi, qu'il prend soin de ma vie et que de toute façon, n'arrivera rien qu'il n'ait décidé. Et ça, vous traversez les choses d'une manière tellement différente. Je sais. Avoir les certitudes aussi va nous permettre de faire les bons choix, de prendre les bonnes décisions, les bonnes orientations. Et ça aussi, c'est important. Parce que quand on ne sait plus, quand on a perdu nos certitudes, quand on ne sait plus trop où on en est, c'est là qu'on fait des bêtises. Hein. C'est là qu'on fait des âneries. Et là, j'ai pensé à cette femme, Rahab. Rappelez que Josué va envoyer des espions, deux espions, et puis Rahab va les recevoir. Et regardez ce qu'elle va dire à ces espions. C'est grand. Hein, des fois, on passe vite dessus, mais c'est important. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit. Elle les avait reçus chez elle. Regardez, et elle va leur dire, l'Éternel, je le sais. Voyez encore une fois, elle ne dit pas, je le sens. Je sens que l'Éternel vous a donné le pays. Oui, peut-être aujourd'hui tu le sens, demain tu ne le sens plus. Hein. L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Sauf que la différence, elle dit, je sais. Et parce qu'elle va dire, je sais, elle va prendre le parti du Dieu d'Israël. Elle va se positionner, d'ailleurs, si elle est dans la liste des héros de la foi, Hébreux 11, c'est parce qu'à un moment donné, parce qu'elle a cette certitude. Comment elle le sait? J'en sais rien. Mais Dieu a travaillé son cœur. Comment il a fait? J'en sais rien. Mais Dieu a travaillé son cœur. Et à un moment donné, elle a cette certitude. Dieu leur donne ce pays. Nous, on a les murailles, on a tout ce qu'il faut, les soldats, tout ça, mais on ne va pas tenir. Dieu est avec eux. Et parce qu'elle a compris ça, elle fait le bon choix. Elle se met du côté du Dieu d'Israël. voyez ? Et c'est important que quelque part on ne se laisse pas voler nos certitudes, notre assurance en crise, parce que en temps de crise, dans les moments difficiles, ça va nous permettre d'avoir de la lucidité pour faire les bons choix. Parce que quand on perd de sa lucidité, on est là, on ne sait plus trop où on en est, on fait n'importe quoi. On fait n'importe quoi. Mais quand j'ai cette assurance en crise, ces certitudes qui sont là, que Dieu a mis dans mon cœur, quand j'ai les promesses de Dieu dans mon cœur, je sais ce que la parole de Dieu dit, mais je vais garder cette lucidité pour savoir quand il y a un créneau, savoir où il faut que j'aille là ou là, quel choix faire. Parce que vous savez que derrière chaque choix, il y a des conséquences. Et le choix de Rahab, là, il était crucial. Hein. Si elle avait fait le mauvais choix, elle aurait péri avec les autres à Jéricho, mais parce qu'elle a fait le bon choix. Mais elle a fait le bon choix et elle donne la raison, je le sais. Vous voyez ? C'est important. Ça va nous aider à faire les bons choix. Peut-être ce matin, il y a des choix à prendre, des décisions à prendre, mais je crois que c'est important d'avoir ces certitudes en Christ. Et puis, j'ai noté aussi que garder notre assurance notre assurance en Christ, nos certitudes en Christ, malgré la pression, ça va nous aider à traverser les situations d'une manière différente. Et ça va nous permettre d'être des témoins. Et là, je pense à Pierre et Jean, qui sont devant le Sanhédrin. Donc des gens, cerveau 4 étages. Hein. Et puis, ils les assaillent de questions, ils les mettent sous pression, ils les menacent. Et la Bible nous dit ça, acte 4, verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction, et les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mon frère, ma sœur, plus tu vas être avec Jésus, communion avec Dieu, plus tu vas avoir de l'assurance. Plus tu vas avoir de l'assurance. Lorsqu'ils virent l'assurance, ça se voit. Hein. Et là, moi j'imagine ces gars-là, ils sont en majorité, les autres ils sont deux, hein, j'allais dire deux au milieu là, de la fosse aux lions, et ils sont pleins d'assurance. Et ça les touche. Quoi. Et ils vivent ça, pourquoi ? Parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Cette assurance en Christ, c'est divin, c'est surnaturel, ça ne s'invente pas. C'est le Saint-Esprit qui la dépose en nous. Comprenez pourquoi on a besoin de dire « Saint-Esprit, remplis-moi ». Et vraiment, je vous invite, je nous invite vraiment à dire tous les jours « Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi, rafraîchis-moi, renouvelle-moi dans le Saint-Esprit. » Cette semaine à la convention, il nous a été rappelé ceci, et c'est pas de l'orgueil, mais il ne faut pas qu'on perde notre identité. Nous sommes pentecôtistes. Alléluia. Et moi, je bénis Dieu pour ça. Je bénis Dieu pour ça, parce que pour nous, le Saint-Esprit, c'est important. Le baptême du Saint-Esprit, c'est important. Le parler en langue, c'est important. Alléluia. Vous voyez, celui qui parle en langue, il s'édifie, mais il est plein d'assurance. Et les disciples, ils étaient là, mais gloire à Dieu, mais ils étaient pleins d'assurance. Et les autres, ils sont là, ils sont étonnés, ils ne comprennent pas. Vous voyez, mais c'est important parce que ça va nous permettre de résister à la pression et de traverser des situations tellement différemment et d'être un témoin pour ceux qui nous regardent. Et ceux qui nous regardent, ils vont faire le même constat qu'eux. Peut-être nous, on ne le saura même pas, mais ça parlera autour. Comment il fait ? Vous avez vu le gars ? Il est toujours là. Vous savez ce qu'il vit ? Ouais. L'assurance en Christ. Quand Dieu nous remplit du Saint-Esprit. Moi, j'ai envie de dire, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Parce qu'on ne vivra plus pareil. Hein. On ne traversera plus les choses pareilles. Hein. Alléluia. On dira, ça va ? Des fois, même, on n'osera même pas le dire, ça va ? Ben ouais. Et j'aime aussi l'attitude des trois amis de Daniel face à la fournaise. Quand vous lisez ça, nous on aime bien ces histoires, hein, mais on se dit toujours il valait mieux que nous. Hein. Il valait mieux que nous. Hein. Et vous rappelez, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar qui voulait qu'il se prosterne devant sa statue. Là. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons. Peut nous délivrer. Ils ne disent pas va nous délivrer. Ils disent peut nous délivrer parce qu'ils sont conscients que Dieu est souverain, qu'il fait ce qu'il veut. Vous voyez, ils ne perdent pas de leur lucidité. Hein. Notre Dieu peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main au roi. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Moi, j'aurais aimé voir la tête de Nebuchadnezzar. de dire, mais peut-être qu'il n'avait jamais vu ça. Mais comment? J'ai un pouvoir sur vous, je peux vous faire mourir. Et vous, vous dites, non, nous, non. Tu peux faire ce que tu veux. Vous imaginez un peu. Là, vous vous dites, oui, ils sont fous. Où il y a quelque chose. Nous on ne se prosternera pas. Peut-être quelqu'un, peut-être, je ne sais pas moi, quelqu'un lui aurait dit, mais faites-le, c'est bon quoi. Faites trois courbettes là et c'est bon, ça passera. Non. Non. Parce que celui qui est plein d'assurance, en Christ, il ne veut pas faire de compromis. Il ne veut pas, parce qu'il a cette assurance que Dieu est là. Alléluia. Voyez. Et j'ai envie de dire, pourtant, alors bon, le jeu de mots est facile, mais bon, je vais le dire quand même. Ça chauffait pour eux. Ça chauffait, hein. Peut-être en ce moment, ça chauffe pour toi. Dans la situation par laquelle tu es, tu te dis ça chauffe. Hein. Et ça chauffe dur. Et là, je le dis un peu avec humour, mais peut-être que celui qui le vit, c'est pas la même chose. Des fois, il y a des situations où ça chauffe. Hein. Ça chauffe à la maison, ça chauffe dans la santé, ça chauffe au travail, ça chauffe là. Dans ces moments-là, ce qu'on a besoin, c'est de ces certitudes en Christ. De dire, Seigneur, oui, ça chauffe. Mais mon assurance, elle est en toi. Mon appui, il est en toi. Mon espérance, elle est en toi. Seigneur, et je ne veux espérer qu'en toi. Notre Dieu peut nous délivrer. Qu'il le fasse ou qu'il ne le fasse pas à la manière dont nous, on le pense, après ça, ce n'est pas notre problème. Mais notre Dieu peut nous délivrer. Et Dieu les a délivrés. Hein. Et vous vous rappelez, dans la fournaise, ils étaient quatre. Il a fallu qu'ils y passent. Moi, je ne sais pas pourquoi des fois il faut qu'on passe dedans. Je ne sais pas. Mais le plus important, c'est que dans la fournaise, Dieu soit avec nous. Je préfère être dans la fournaise avec le Seigneur que hors de la fournaise sans le Seigneur. Même si c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais Seigneur, je veux garder cette assurance. Et si peut-être, mon frère, ma sœur, Dieu t'a parlé, Dieu t'a donné peut-être des promesses, un verset de sa parole, ou des versets, peut-être des dons spirituels, écris-les. Écris-les. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand Martine est venue, qu'elle a rendu son témoignage, c'était le dimanche après-midi. Elle a dit quelque chose qui m'a interpellé. Et fut un temps, c'est quelque chose que je faisais, que je ne fais plus. Peut-être que je devrais m'y remettre. C'est quand Dieu nous dit quelque chose, de l'écrire. Et vous rappelez ce qu'elle a dit ? J'ai écrit parce qu'elle a senti à un moment donné qu'un don spirituel était pour elle, elle l'a écrit. Et quand ça a commencé à chauffer, elle relit ça. Je crois que c'est important quand ça chauffe, quand Dieu nous a donné une parole, des versets de sa parole, un don spirituel, mais écrivons-le. Voilà ce que je veux repasser dans mon cœur. Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, vous voyez. Ça nous permet de repasser ces choses dans notre cœur et de nous garder dans cette assurance en Christ que quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, Dieu est au contrôle. Alléluia, on en parlera mardi soir. Dieu est au contrôle. Alléluia. Et je veux bénir le Seigneur. Alors, je pourrais vous citer d'autres exemples ce matin, mais ce matin, je veux bénir Dieu de ce que, je le crois, nous pouvons dire pour la plupart ce matin. Je sais que mon Dieu est vivant. Je sais que ma vie est entre ses mains. Je sais qu'il est le Tout-Puissant. Je sais que toute situation, c'est sous ton contrôle et que rien n'arrive que tu n'aies décidé. Et quoi qu'il arrive, c'est en toi que je veux m'appuyer. Si on peut dire ça ce matin, malgré ce qu'on vit, malgré le fait que ça chauffe, malgré le fait que peut-être comme Asaph, on ne comprend pas tout, c'est pas normal, etc., etc., mais on va traverser les choses différemment. On va traverser les choses différemment. Peut-être ce matin, je termine, peut-être ce matin, il y a un Asaph au milieu de nous. Peut-être il y a un Jean-Baptiste. Peut-être les doutes ont pris le dessus. Peut-être tu sais plus où tu en es. Je sais plus, Seigneur. Oui, je sais que tu m'aimes. Enfin, je sais plus. Peut-être c'est le brouillard. Mais ce matin, Dieu veut te visiter. Il veut te renouveler. Il ne veut pas te laisser comme ça. Il ne veut pas que tu partes là comme ça, complètement déboussolé. Mais il veut te renouveler dans le Saint-Esprit. Mais peut-être c'est l'occasion de dire ce matin, Seigneur, finalement, ce que j'ai besoin, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. C'est tout. Et c'est l'occasion ce matin de dire, mais Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit comme tout à nouveau. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, viens. C'est l'occasion ce matin de ne pas rester dans le brouillard, mais de dire, Seigneur, j'ai besoin d'un souffle nouveau sur ma vie. J'ai besoin que tu viennes me renouveler. Peut-être que tu as perdu ces certitudes. Peut-être que tu les avais, mais tu ne les as plus. Ou peut-être que c'est flou. Ben, ce matin, ce message, il est pour toi. Pour que tu puisses dire, Seigneur, peut-être des fois on dit, ça ne va pas, mais je ne sais pas pourquoi. Des fois, on dit ça va pas et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Ben, peut-être que c'est l'occasion de mettre le doigt ce matin et de dire ben, ça, oui, maintenant je comprends, je sais ce qu'il y a. C'est que j'ai plus ces certitudes, cette assurance. Peut-être l'ennemi a réussi à la subtiliser. Peut-être on les a égarés en route par légèreté ou pas. Je ne sais pas. Qu'importe la raison. mais de pouvoir dire, Seigneur, ce matin, que je puisse vraiment sortir de ce lieu en disant, comme l'apôtre Paul, j'ai l'assurance que rien, rien, même ce que je vis, ne pourra me séparer de ton amour. Et que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, un jour je serai avec toi. Mais en attendant, je veux rester ferme. En attendant, je ne veux pas lâcher. En attendant, je veux continuer d'espérer en toi. Parce que tu es le Dieu puissant. Et quand on peut confesser ces choses, vous savez que le diable n'aime pas ça. Hein? Quand on confesse ces choses, que Dieu est tout puissant, je confesse que Jésus est Seigneur. Mais rien que ça, ça permet au Saint-Esprit de nous visiter. Ce matin, je voudrais que quelques instants là devant Dieu puissent se dire, Seigneur, j'ai besoin d'un souffle nouveau sur ma vie, peut-être de te renouveler dans le Saint-Esprit. Peut-être que ça chauffe pour toi, peut-être que c'est compliqué, peut-être qu'il y a de la pression, que ce soit professionnelle ou autre, qu'importe, familiale, médicale. Va dire, Seigneur, je suis devant toi ce matin parce que je ne sais pas. Moi, je ne sais pas, mais toi, tu sais. Alors, Seigneur, mon espérance, elle est en toi. Mon assurance, elle est en toi. Mes certitudes sont en toi. Et Seigneur, je veux vraiment le confesser ce matin. Alléluia.